Rebonjour, après ce message de l'organisation, nous allons commencer les interviews. Je suis avec Yanis Yoguntas, un cinéaste grec, qui va se présenter lui-même et qui va nous parler de son œuvre et de son dernier film.
Oui, bonjour, Yanis Yoluntas. Oui, je suis franco-grec plus précisément. Je suis de père grec et de mère française. Mais à vrai dire, je me sens ni français ni grec. Je me sens terrien. Je suis un militant anarchiste. Je milite à la fois en France et en Grèce selon les circonstances, car je vis surtout entre ces deux pays. Et d'ailleurs, je participe à des actions de solidarité aussi, des convois solidaires une ou deux fois par an depuis la France ou la Belgique et la Suisse, parfois aussi vers la Grèce, vers les lieux autogérés en Grèce du mouvement social, car il ne s'agit pas du tout d'action humanitaire. On n'est pas du tout en lien avec l'État ou les ONG. On ne fonctionne uniquement qu'avec le réseau militant en France, en Belgique et en Suisse, à direction du réseau militant en Grèce. Pour soutenir les squats, pour soutenir l'accueil des réfugiés migrants, pour les cuisines sociales autogérées, gratuites, qui donnent à manger aux sans-abri, quelle que soit leur origine, et aussi pour soutenir les collectifs de lutte, comme par exemple le groupe anarchiste Rubiconas à Athènes, qui fait pas mal d'actions contre le pouvoir, contre les lieux de pouvoir et du sabotage aussi. Et puis, par exemple, des actions environnementales contre les projets de forage pétrolier, les différents projets nuisibles à grande échelle, comme par exemple la création d'un nouvel aéroport en Crète. Voilà, donc ça, c'est pour les activités. Et parallèlement, étant membre de ces collectifs, du coup, c'est en tant que membre de ces collectifs que je m'occupe de la coordination d'éléments artistiques donnant à voir ce qu'on fait, ce qui se passe en Grèce. Et donc, c'est à ce titre que quelquefois, je fais des livres et des documentaires. Donc là, on est en train de préparer la sortie du quatrième documentaire. Certains ont peut-être entendu parler des précédents. Il y avait Ne vivons plus comme des esclaves en 2012. Je lutte donc je suis en 2015. L'amour et la révolution en 2018 et donc sortira bientôt en novembre. Nous n'avons pas peur des ruines qu'on va présenter ce vendredi à 20h à la salle Saint-Georges à Saint-Imier.
Parfait, on essaiera d'être là pour voir cette œuvre, ce nouveau film. Donc, un militant anarchiste, comme tu te décris, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici, à part la présentation de ton film? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont poussé à être ici aujourd'hui à Saint-Imier?
Le désir de changement de société, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de gens. Par contre, la clarté du refus de la délégation et de l'horizontalité vers plus de liberté et d'égalité pour enfin prendre nos vies en main, c'est quelque chose qui est un peu moins présent, malheureusement. Je dirais que le diagnostic, les problèmes, l'évident mauvais fonctionnement de la démocratie parlementaire et également les inégalités qui se creusent, les problèmes environnementaux, tout ça, c'est une évidence que reconnaît la majorité de la population. Donc jusque-là, on est sur le bon chemin. Mais par contre, dès lors qu'il faut trouver des solutions, il n'y a pas assez de gens qui se rendent compte qu'il faut vraiment faire table rase et passer à autre chose, quoi, que réformer le système ne suffit plus. Et du coup, vu la dystopie vers laquelle on avance, à la fois la catastrophe écologique, mais aussi le durcissement des régimes qui sont de plus en plus autoritaires avec des lois de plus en plus sévères et aussi des moyens technologiques qui leur permettent de contrôler encore plus les opposants politiques et toute forme de désaccord. Par conséquent, on s'enfonce dans une dystopie qui fait que il y a une ambiance un peu morose, on va dire, et que du coup, il faut vraiment qu'on se retrouve. On est une grande famille de ceux qui pensent vraiment radicalement autrement. Et se retrouver à Saint-Imier, c'est d'abord retrouver des visages connus, rencontrer des visages inconnus. Et ça fait vraiment du bien. On a besoin de ça. On est des êtres de sensibles, chargés d'émotions, et on peut pas uniquement intellectualiser la lutte et uniquement agir ici et là. On a aussi besoin de se recharger, et c'est vraiment un moment vraiment parfait pour ça, Saint-Imier, de se retrouver ici, par-delà les frontières.
Comme c'est bien dit, merci pour ces mots, c'est parfait. Donc, évidemment, je connais un peu la réponse, mais donc tu as fait quatre films, enfin trois plus celui que tu vas présenter aujourd'hui, si je ne m'abuse, les thèmes de ces films.
Alors, ne vivons plus comme des esclaves. Le but, c'était surtout de montrer que, en fait, au-delà de la liberté qu'on affirme à notre grande joie comme étant le pilier de la société libérale, en réalité, on a la liberté de consommer en fonction des moyens dont on dispose. Et en fait, il n'y a pas de réelle liberté, vu que ce sont surtout les gens qui prétendent nous gouverner qui font les lois et qui veulent absolument tout gérer avec leurs valets. Donc, il y a le problème de la liberté qui est posé, et donc par conséquent, une forme de moderne d'esclavage. Nous sommes des esclaves modernes qui, même à travers le salariat, ne valent pas beaucoup plus que les esclaves d'autrefois. Ensuite, dans Je lutte, donc je suis, il y a l'idée de pourquoi lutter, surtout quand les causes semblent désespérées, quand il semble trop tard, ou quand nous semblons trop peu nombreux. Et donc, il y a la question donc de savoir à quel point lutter, c'est déjà arriver à vivre debout. Et d'une certaine façon, même quand on n'arrive pas au but, c'est déjà une façon de vivre à part entière qui vaut vraiment la peine. Voilà. Et ensuite, concernant l'amour et la révolution, c'était pour le sujet principal du film concerne le fait de casser l'image des militants chiants, ennuyeux, tristes ou nés, etc., qui est l'image qu'on veut donner de nous dans les médias dominants. Et donc, c'était montrer l'aspect festif du milieu militant agissant, hein, j'entends, hein, pas ceux qui passent leur temps uniquement à dépoussiérer les bibliothèques, mais même s'il en faut des bibliothèques sociales, on en fait plein, mais par contre, je dirais, dans l'action, par exemple solidaire, ou même dans des luttes très radicales, il y a une fraternité, une sororité, une adelphité, il y a des liens très forts, mais aussi des joies immense, il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup d'amour surtout. Et c'est ça qu'on a voulu montrer dans l'amour et la révolution, ainsi que, bien sûr, comme il y a le mot révolution, la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par révolution. La révolution sociale, est-ce que ça se construit de jour en jour? Est-ce que ça, on attend le grand jour? Voilà, quelle est notre perception? Et puis pour finir, le quatrième film qu'on va présenter pour la première fois ce soir à Saint-Imier à 20h à la salle Saint-Georges, et qui, donc en extrait, hein, on va montrer la moitié du film pour la première fois, et qui sera présenté ensuite, qui tournera et qui sera mis en ligne gratuitement sur Internet. Quand on n'a jamais rien fait en copyright, tout a toujours été mis en ligne gratuitement sur Internet, sur les différents supports possibles. Donc ce soir, ça sera Nous n'avons pas peur des ruines, qui est la devise actuellement en Grèce dans le mouvement social depuis l'arrivée de la droite au pouvoir en 2019, car c'était une promesse de Mitsotakis, qui a récemment été réélu, que de vouloir provoquer le grand nettoyage exarchien dans notre quartier principal le plus connu à l'international, même si c'est loin d'être le seul endroit où il se passe des choses importantes en Grèce. Et également d'en finir avec des groupes comme Rouvikonas que j'évoquais à l'instant. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de circonstances quand les squats, les uns et les autres sont évacués, quand les lois anti-squat se multiplient, comme partout ailleurs, hein, au même moment en France, en Italie, en Grèce et dans d'autres endroits du monde, il y a des nouvelles lois anti-squat qui criminalisent tous ceux qui essaient d'ouvrir des lieux, ne serait-ce qu'avec des bâtiments publics désaffectés depuis très longtemps, hein, c'est même pas forcément des bâtiments privés que des privés veulent reprendre. Du coup, la question se pose, comment on fait avec la gentrification quand même pour les groupes dont la stratégie est différente et qui préfèrent louer des lieux pour pouvoir organiser la solidarité, des événements, de l'art, des rencontres, et que l'augmentation du prix des loyers dans les centres-villes augmente autant, comment on fait dans ces cas-là face aux ruines aussi également? Les ruines, bien sûr, c'est les ruines environnementale d'une planète qui n'en peut plus. Et donc, par conséquent, est-ce qu'on va sombrer dans le défaitisme, dans la résignation? Est-ce qu'on se dit qu'on n'est pas capable d'aller plus loin, que du coup, eh ben, il faut pratiquer ce qu'appellent certains l'hédonisme de dernier jour, c'est-à-dire profiter au maximum tant qu'on peut et allumer la clim encore plus fort, puisque de toute façon, tout est foutu, et consommer encore plus? Ou à l'inverse, au contraire, est-ce qu'il y a toujours une brèche qui est possible? Et justement, c'est parce qu'on est dos au mur, de plus en plus dos au mur, qu'il y a des possibilités de réaction, que tôt ou tard, si on rend plus lisible nos initiatives et qu'on rend visible le fait que il n'y a pas d'autre choix possible que de sortir radicalement de ce système politique et économique pour arriver à changer les choses. Eh bien, dans ce cas-là, d'autres pistes s'ouvriront. Donc, cette fois, c'est donc la question de face au mur, qu'est-ce qu'on fait? Face à l'impasse, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce qu'il y a de quoi désespérer, déprimer? Ou au contraire, est-ce qu'au contraire, on est près du but justement parce qu'on est au fond de l'impasse?
Tes mots sont une vraie bouffée d'optimisme, et puis ça me fait penser à. Moi, j'étais très marqué par un spectacle d'Alexandre Astier qui s'appelait Que ma joie demeure, où je crois qu'il parle de Jean-Sébastien Bach qui a perdu 6 ou 8 enfants, je ne sais plus. Et en fait, c'est un spectacle triste, évidemment, mais c'est une ode à continuer. Et j'ai l'impression que dans tes mots, franchement, on sent cette énergie. Toi, ta joie, ta motivation, elle vient d'où?
Ma joie, ma motivation. Enfin, on est d'abord conditionné par notre existence, par notre parcours de vie, par les rencontres, par l'origine sociale, les épreuves qu'on a traversées. C'est les épreuves qui nous façonnent, qui nous construisent aussi, hein. Donc, on est déterminé en partie et après, on essaie de s'émanciper de différentes manières, ne serait-ce qu'en essayant de penser par soi-même. Hein, aussi également en multipliant les expériences, car c'est sur le terrain qu'on apprend. C'est en avançant qu'on dessine le chemin, les uns et les autres, et surtout ensemble. Moi, je crois plus au nous qu'au je, même si il faut passer du je au nous pour ne pas se mettre à genoux et du nous au je pour ne pas se voir nuageux. Mais je dirais, c'est un jeu de mots, quoi, que vraiment tout est une question d'équilibre. Et justement, dans l'anarchisme, il y a ça. Dans l'anarchisme, il y a à la fois le désir d'égalité sociale et en même temps une liberté du sujet, de l'individu pour se choisir à part entière, au-delà des formes conformes. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Après, comme je le disais par rapport au film Je lutte donc je suis, je pense que dans la lutte, dans l'action, y compris solidaire, artistique aussi, la création, la résistance, il y a la possibilité de vraiment de s'épanouir, de faire les plus belles rencontres qui soient. Moi, mes plus belles rencontres dans ma vie, c'est pas mes parents, c'est pas mes enfants, même si je les adore, hein, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie et j'en suis très heureux, mais c'est d'abord mes sœurs et frères de lutte, quoi. Vraiment, c'est ma vraie famille, c'est celle que j'ai choisie dans la lutte. Plein de gens, quoi, qui ont été vraiment des clés pour moi. Et même si, voilà, il y a des gens qui sont des proches qu'on connaît depuis l'enfance. Je pense que vraiment, c'est avec ceux avec lesquels on est en train de travailler sur ce nouveau monde que on se retrouve le plus. Et moi, j'ai vraiment une joie vraiment infini de revenir à Saint-Imier pour voir et découvrir ces personnes.
Ouais, c'est parfait. Merci. Donc, on va parler évidemment de ton film, ton dernier film. On va parler de la Grèce, on va parler de l'anarchie, dans le désordre, on verra. Donc, maintenant, si on vient peut-être à ton film, ce dernier film, il parle de quoi?
Alors, nous n'avons pas peur des ruines. En fait, commence avec l'arrivée de la droite au pouvoir en Grèce. C'était pas la panacée, la gauche au pouvoir. Hein. Syriza nous avait trahi. On peut pas dire nous avait trahi nous les anarchistes, mais avait trahi par contre beaucoup de gens qui avaient cru qu'ils allaient pouvoir dire non. D'ailleurs, il y a eu un référendum en juillet 2015 qui a interrogé les Grecs et au final qui n'a pas respecté leur réponse. Donc, ça montre bien quand même les limites de cette pseudo-démocratie. Et donc finalement, en toute logique, la droite est revenue au pouvoir suite à la déception de ceux qui croient encore que voter est utile, sert à quelque chose. Donc depuis juillet 2019, on subit une offensive qui est beaucoup plus forte qu'avant. Et cette offensive, elle concerne vraiment tous les pans du mouvement social. Donc face à cette difficulté supplémentaire et un contexte de plus en plus hostile, comment on fait pour s'organiser, comment on fait pour réagir. Dans chacun de nos films aussi, il y a une actualisation des sujets de lutte, des terrains de lutte. On vous fait découvrir de nouveaux endroits. Par exemple, ce soir, on ira aussi à la frontière albanaise pour certaines raisons. On ira en Crète, on ira ailleurs qu'à Athènes. Et puis, bien sûr, on ira à Exarchia pour découvrir ce qui se passe dans le quartier, puisque le quartier subit une énorme offensive du pouvoir avec, par exemple, la confiscation de la place centrale avec une présence policière extrêmement forte pour essayer de construire un métro, un chantier de métro, une station, ou encore la tentative d'appropriation par des intérêts privés de la colline de Strefi dans notre quartier. Voilà, parmi les nombreuses découvertes. Et puis bon, qu'est-ce qui se passe pour les migrants, puisqu'il y a un durcissement des lois concernant l'immigration en Grèce comme ailleurs. Autant de sujets qui seront abordés. Nous, on est très attachés aussi à créer des musiques pour les films avec des gens connus et moins connus. Et donc des chansons, etc., des chansons de lutte. Donc il y a des chansons célèbres comme Ne vivons plus comme des esclaves, avec le premier film qui a pas mal tourné, il y a eu pas mal de versions. Après, par la suite, ça est devenu un slogan du mouvement social à plusieurs endroits. Et c'est vrai que là, ce coup-ci aussi, vous découvrez des chansons. Il y a le fils de Léo Ferré, Mathieu Ferré, qui nous a confié une chanson quasiment pas connu de son papa. Il y a Manu Chao qui nous a fourni une chanson. Il y a Social West. Il y a Villager of Ioannina City, parmi les plus connus, quoi. Jean-François Briand, celui qui a fait De la servitude moderne, qui est aussi un chanteur et musicien. Voilà. Donc les musiques et les chansons, c'est aussi extrêmement important, comme on l'a dit tout à l'heure. La charge émotionnelle, ça fait partie de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Et donc dans les chansons, on peut à la fois mettre de la pensée, des idées, des témoignages, et on peut aussi transmettre cette sensibilité qui est la nôtre.
Donc c'est un documentaire, c'est ça?
Alors, c'est un documentaire parce que c'est pas une fiction, donc on est classé documentaire, mais nous on pense que c'est pas vraiment un documentaire parce que un documentaire normalement c'est un réalisateur qui va sur un terrain un peu avec un parachute plus ou moins longtemps et qui après dit ce qu'il a vu, ce qu'il a découvert et si possible au fur et à mesure. Nous en l'occurrence on fait nos films nous-mêmes. Depuis notre terrain. Donc, moi, en tant que membre de certains des principaux collectifs en question en Grèce, à Exarchia et aussi par rapport à un squat dont on parlera tout à l'heure, ce soir. Du coup, c'est un travail collectif qui est effectué avec des assemblées pour préparer et réfléchir à ce qu'on veut présenter. C'est-à-dire de quoi on veut parler, qu'est-ce qu'on préfère ne pas encore dévoiler pour des raisons de sécurité, de nos luttes, etc. Et aussi comment on présente les choses, qui va être mandaté pour parler, qu'est-ce qu'on fait avec les plans de coupe, parce qu'on essaie de faire des choses bien quand même. Du coup, c'est un travail collectif. Donc c'est assez, je dirais, c'est assez particulier. Et on pourrait même critiquer et dire que c'est un film de propagande par conséquent. Oui, mais non, parce qu'il y a quand même aussi un peu de dialectique, il y a quand même aussi des doutes, des hésitations. On essaie de montrer aussi ce qui fonctionne moins, les luttes qui réussissent moins. Donc avec humilité, ça c'est important aussi. Voilà. Ne pas faire croire que tout va bien et qu'on est dans la réussite complète, c'est pas vrai. C'est extrêmement difficile, mais comme je disais tout à l'heure, justement, l'important c'est d'abord et avant tout de se retrouver et de lutter ensemble debout. Quelles que soient les perspectives de réussite.
Oui, absolument. Et donc, ce film, tu l'as fait toi tout seul? Il y a
Ah
une
non, pas
équipe
du tout.
derrière?
Non, non, pas du tout. C'est un collectif.
Collectif.
Après, il y a eu un dilemme avec Ne vivons plus comme des esclaves. C'est-à-dire que ils ont vraiment voulu, les copains, copines, compagnons, compagnonnes, que je sois nommé réalisateur, puisque j'avais fait le plus gros boulot de coordination, de l'idée, le fait de filmer, etc. Bon, voilà, globalement. Donc, je suis censé être le réalisateur. Mais en fait, si vous regardez à la fin des films, la liste énorme de gens qui ont participé, des collectifs entiers, etc., il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, quoi. Voilà. Moi, je suis juste. Vous savez, les chefs, moi, j'aime pas ça. Mais c'est vrai que pour les orchestres, il paraît que c'est absolument nécessaire. En cuisine, il paraît que c'est nécessaire aussi, quoique c'est peut-être encore un peu plus discutable.
Vrai.
Peut-être qu'au cinéma, c'est peut-être utile quand même, même si on est mandaté, même si on est révocable, même si on a un mandat précis et une procédure assez précise, un protocole précis pour construire ces films. C'est vrai que bon, voilà, j'ai ce rôle-là, donc j'accepte qu'on m'appelle réalisateur, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui s'occupe de ça, de près ou de loin d'ailleurs.
Et donc, pour ceux qui sont à Saint-Imier, c'est ce soir à 20h,
À la salle Saint-Georges.
20h ou 21h, je sais pas.
20h.
20h à la
20h
salle
à la salle
Saint-Georges.
Saint-Georges. Ouais.
Et pour ceux qui sont pas à Saint-Imier et qui veulent voir tes films.
Eh bien, nous, on viendra en Suisse à partir du mois de novembre, pendant l'hiver.
D'accord.
Et donc, on viendra à l'espace noir, comme à chaque film. Hein. On y viendra à Genève, bien sûr.
Alors, on se retrouvera à Genève, alors.
À Lausanne aussi, comme à chaque fois qu'on sort un film. Et à la frontière française aussi, pour ceux qui se déplacent jusqu'en France. On sera bien sûr à Annemasse, à Lyon, à Besançon, dans des endroits comme ça, autour de la Suisse aussi. Donc, il y aura pas mal de dates et ça sera à découvrir sur le site qui sera mis en place au même nom que le film. Voilà.
Parfait, on se croisera encore, probablement à
Et
Genève.
si des gens veulent en savoir plus sur les convois solidaires dont j'ai parlé au début et que vous avez envie de partir avec nous parce que en fin d'hiver, il y aura un départ vers la Grèce pour le printemps, quoi, en quelque sorte, qui se prépare dès maintenant, hein, qui se prépare pendant l'hiver, on va dire. Eh ben, il suffit de taper ANEPOS sur Internet, ANEPOS. ANEPOS, et vous verrez quoi ce qu'on fait avec les convois solidaires
On
et vous
mettra,
pourrez venir avec nous si vous voulez quoi. Voilà.
qui sait, on mettra tout ça sur le site une fois que le podcast sera monté, mais
C'est l'occasion de se rencontrer. C'est important aussi de faire en sorte de se rencontrer par-delà les films, même si dans les films, c'est l'occasion de se présenter, de vous montrer, de donner la parole aux personnes qui luttent et qui font plein de choses de façon à se rencontrer par-delà les écrans. Mais c'est mieux encore de faire le voyage. Quelquefois, on part à 70 avec 30 fourgons depuis la Belgique, la Suisse et la France. Et dans ces moments-là, ben, des gens comme moi et quelques autres, on est en quelque sorte une forme de trousseau de clés qu'on vous transmet, qu'on copie des clés, on vous donne le trousseau de clés de façon à ce que ensuite, sans nous, vous puissiez continuer à tisser des liens avec les compagnons et les compagnons du bout de l'Europe dans le mouvement social. Voilà. Et de même que lors des tournées films, on fait venir des intervenants dans la mesure du possible de Grèce pour témoigner de un petit peu, discuter avec vous pendant les débats, qu'on ne soit pas les seuls, l'équipe film, à discuter avec la salle partout où on va.
Et si on veut voir les films, est-ce qu'ils sont disponibles sur Internet quelque part?
Même sur la plateforme YouTube, pour
Sur
la
YouTube?
plateforme la plus utilisée, vous pouvez taper Ne vivons plus comme des esclaves, vous pouvez taper Je lutte donc je suis, ou encore, je vous conseille le plus récent, L'amour et la révolution.
L'amour et la
Voilà.
révolution,
Voilà.
très beau, très belle. Tu l'as décrit tout à l'heure et c'est magnifique de mettre en avant la joie et la joie qu'il peut y avoir à lutter, même si malheureusement c'est difficile et
Et
on
c'est
n'y
pour
arrive
ça qu'on
pas.
lutte. En conclusion, en quelque sorte, c'est pour ça qu'on lutte. C'est parce qu'on aime la vie et qu'on a envie de la défendre jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société mortifère. Mortifère à la fois parce qu'elle nous vole la vie au sens de la possibilité de vivre sur cette planète et aussi la vie parce que si on n'a pas les moyens de se payer à manger et le nécessaire, ben on peut pas s'en sortir. Donc du coup, on est privé du droit de vivre en réalité. Et puis troisièmement, et c'est je pense que c'est pire encore. On nous vole nos vies parce que, en prétendant nous gouverner, en prétendant assurer un pouvoir et une gestion de nos vies, on nous vole littéralement nos existences. Et ça, c'est le pire, c'est d'être vivant, mais comme des zombies, comme des esclaves. Et donc, par conséquent, oui, l'idée, c'est de prendre nos vies en main. C'est l'idée de l'anarchisme, de l'autogestion. Et
Absolument.
c'est la priorité. Donc, oui, on est du côté de la vie, on est du côté de l'amour, on est du côté de la révolution, et ces trois mots vont ensemble.
Magnifique. Parlons un peu de la Grèce maintenant. Donc, la Grèce a été mise, on va dire, au banc économique de l'Europe il y a quelques années pour ce défaut de paiement. Qu'est-ce qui se passe en Grèce? Quel est l'état des luttes? Tu as l'air de dire que, comme partout en Europe, évidemment, la répression est de plus en plus forte. Mais comment tu juges en fait, le niveau révolutionnaire, on va dire, de la société grecque?
Je crois qu'il faut se méfier en fait avec les tentatives de diagnostic de l'état révolutionnaire des sociétés. En fait, tout peut basculer très vite. On l'a vu en France à de nombreuses reprises ces derniers temps. On l'a vu en Grèce également. En fait, quelquefois, il suffit d'une allumette, d'un jeune assassiné, d'une loi de trop et tout peut basculer très vite. On peut voir beaucoup de monde descendre dans la rue et l'imaginaire social, comme disait Castoriadis, l'imaginaire social instituant complètement remanié, ouvert sur des radicalités. Donc, je pense que tout peut basculer très vite. On l'a dit sur mai 68 aussi, qu'avant mai 68, la France s'ennuyait dans les titres du Monde. Voilà, je pense qu'on en est au même point aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a, en apparence, on est dans une société un peu réactionnaire, un peu conservatrice, qui s'accroche à ce mode de vie complètement dépassé, et surtout ce mode d'organisation. Et en réalité, je pense que on est dans une situation critique, une situation de crise profonde. Une crise profonde parce que de toute façon, on ne pourra pas continuer beaucoup plus longtemps de cette façon-là. Et donc, par conséquent, qui dit situation de crise dit situation de remise en question. Le temps critique, le temps de la crise, est aussi le temps de la critique, le temps de la remise en question. Toujours, on a besoin de moments de crise pour avancer. Même structurellement, l'être humain, il a besoin de ça. C'est-à-dire que c'est des temps critiques qui provoquent les paliers, les avancées de l'humain, la crise des 3 à 6 ans, la crise d'adolescence, etc. Toutes ces crises dont on parle souvent dans l'éducation, eh bien, c'est des crises qu'on retrouve aussi dans les sociétés, c'est-à-dire des paliers durant lesquels il y a des remises en question profondes du fait que les choses ne peuvent plus continuer ainsi. On en est là aujourd'hui. Par contre, on ne sait pas quand ni comment exactement les choses basculeront. Il faut faire attention à la tentation du fascisme. Aujourd'hui, l'extrême droite et aussi d'autres formes de fascisme, parce que le fascisme, c'est pas du tout que l'extrême droite. Elle est présente dans nos sociétés, dans les rapports de domination, dans le couple, dans la famille, dans l'école parfois, dans plein de domaines de la vie. Les rapports ultra-autoritaires sont très présents. Et donc, par conséquent, il faut se méfier de cette dérive-là parce que le pouvoir abuse de lois de plus en plus nombreuses pour essayer de nous contrôler, de nous conditionner et dispose de moyens technologiques toujours plus importants. Et puis, le fait d'arriver dans une situation de crise favorise également cela, quoi. Donc, je pense qu'il y a un danger, une alerte. Et donc, en gros, pour le dire autrement, on est devant un croisement. On est au croisement des changements de société et on a le choix de plus en plus entre dystopie et utopie. On ne pourra pas continuer comme ça, donc il faudra choisir. Et attention à ne pas se tromper de chemin.
Oui, sans doute, oui. Mais c'est vrai qu'on le voit partout en Europe. Il suffit d'une petite étincelle pour que les gens descendent dans la rue et que ça devienne véritablement un mouvement puissant, on va dire, en tout cas qui fait bouger les lignes, qui fait peur au pouvoir en place, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce pouvoir qui veut simplement nous autoriser à consommer selon nos moyens de subsistance. C'est ce que tu as dit, et c'est très juste. Maintenant, comme tu l'as dit aussi, comment on fait pour que les solutions simples ou les gens qui proposent des solutions simplistes, extrême droite, ne gagnent pas du terrain? Parce qu'in fine, ce qu'on constate malheureusement, c'est que les plus proches d'un gouvernement d'extrême droite un peu partout en Europe que d'un gouvernement, on va dire, je ne vais pas dire anarchiste, mais enfin, les idées d'anarchistes, l'anarchisme progresse, mais malheureusement, in fine, on se dirige soit vers un libéralisme mou, à la française, on va dire, soit vers une extrême droite molle aussi, parce qu'évidemment, ils ont adouci leur discours.
Un cheval de Troie. En fait, le capitalisme a toujours eu besoin du fascisme, enfin, du moins depuis le XXe siècle, en tout cas. Avant, c'était sous des formes différentes, bien sûr, mais pour s'en servir comme joker, sitôt que les illusions s'effondrent et que, notamment, l'illusion de liberté, d'égalité, de justice s'effondre face à devant la réalité. À chaque fois, à chaque situation de crise, ces pions-là ont été avancés par le pouvoir lui-même, hein, le pouvoir politique, économique et médiatique, puisque la particularité de la démocratie dite représentative, c'est que en réalité, l'opinion est confisquée par ceux qui la fabriquent, en l'occurrence des médias dominants, puissants, qui appartiennent pour la plupart à des intérêts privés qui sont le pouvoir économique, en fait. Donc, du coup, les idées sont pipées. On nous parle de démocratie, on nous parle de vote, etc. Mais en fait, si l'opinion est ainsi fabriquée, par conséquent, les dés sont pipés. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'extrême droite monte. C'est parce qu'en fait, les médias la favorisent dans une situation de crise où il est indispensable, face au constat flagrant de la crise, de rechercher des boucs émissaires. Donc à chaque fois, l'idée, c'est de dire que c'est la faute des étrangers, de dire que c'est la faute de ceux qui sont différents, marginaux, radicaux, etc. Et donc c'est toujours le même piège, quoi, en quelque sorte. On fait également peur aux gens avec l'insécurité. En fait, c'est une insécurité civile au niveau des biens. qui essaie de faire oublier l'insécurité sociale, c'est-à-dire au niveau des conditions de vie à tous les niveaux, quoi. Donc, c'est l'arbre qui cache la forêt et c'est un moyen extrêmement efficace depuis un siècle pour arriver à garder le contrôle en temps de crise. Voilà.
Petite annonce. Une petite annonce.
Une intervention du public.
C'est simplement, je pense que c'est lié. À 11h dans la salle de spectacle, il y a un atelier. Le sujet, c'est des femmes, asile et la solidarité. Et comment nos structures sont ouvertes aux femmes migrantes, réfugiées plutôt. Et tout le monde est bienvenu. Merci, je pense c'est des sujets tellement liés.
Bien sûr.
C'est.
Bien
Merci
sûr.
beaucoup.
Merci.
Merci à toi.
Au revoir.
Merci.
Et je viendrai à 20h.
Merci.
Oui,
À ce
d'accord.
soir.
Oui, alors reprenons donc. Comment on fait maintenant alors? Alors que il y a beaucoup de pays sur cette planète et ne parlons que de ceux qu'on connaît autour de nous, où il y a, je sais pas moi, 40% de la population qui sont des working poor, c'est-à-dire qui travaillent mais qui n'ont pas assez de moyens pour subsister. Comment on fait pour inverser la tendance? Évidemment, on se dirige plus vers du open prolétariat
Eh
que
oui.
d'une société, une société ouverte, inclusive
C'est sûr, mais
et
le pire n'est
empathique.
jamais certain. Comme je le disais avant, historiquement, il s'est passé énormément de choses qui ont bousculé la donne, beaucoup de choses imprévues, les phénomènes révolutionnaires de soft révolution ou de révolution sociale proprement dite se sont produits à nombreuses reprises dans nombreux pays sans pour autant pouvoir les prévoir. Et c'est également le cas pour l'imaginaire social. Je crois que c'est le terrain principal sur lequel il faut agir. Le pouvoir nous propose un imaginaire social institué, un imaginaire social conditionné, un imaginaire social préfabriqué, avec la publicité également. Et c'est à nous de proposer un autre imaginaire social radicalement instituant qui propose des solutions pour vivre autrement, pour sortir du cadre, tant au niveau de la façon de s'organiser, de se gouverner nous-mêmes, d'autogérer pas mal de choses dans l'existence et aussi de laisser l'individu construire sa vie par affinité avec des groupes sur des territoires. Ça, c'est également très important. Le communalisme libertaire, par exemple, je pense que c'est une idée qui doit faire son chemin dans tout ça quoi et puis aussi permettre localement à chacun de s'organiser différemment, ça c'est très important. Il y a l'idée quand même que il n'y a pas de raison de s'organiser de façon monolithique sur tous les territoires.
C'est sûr.
Donc ça, tout ça, c'est un combat au niveau des idées et c'est pour cela que la création c'est aussi le pendant de la résistance. Résister c'est créer, créer c'est résister. On a besoin de faire des films justement, des livres, de la photo, des expos, de la radio, utiliser tous les supports possibles pour faire avancer le débat, transmettre les témoignages, montrer que c'est possible. Dans nos films, on n'est pas dans la démarche de notre ami Jean-François Briand qui, dans De la servitude moderne, que je vous conseille de voir sur Internet, fait le constat de ce qui fonctionne pas. Nous, notre démarche, c'est plutôt de montrer comment on peut faire, quelles alternatives on peut proposer. Donc, c'est plutôt des films sur les alternatives. Et c'est ça, à mon avis, dont les gens ont le plus besoin aujourd'hui. En fait, il y a une majorité de gens qui se rendent compte que ça va plus. Que la démocratie c'est bidon, que l'égalité c'est les inégalités ne cessent de se creuser, que la liberté c'est juste la liberté de consommer quand on a les moyens de le faire et ça rend pas forcément plus heureux et c'est la liberté en réalité c'est autre chose. Et donc par conséquent, il y a vraiment la possibilité aujourd'hui de diffuser des alternatives et de montrer qu'en fait, il y a des solutions à ces problèmes. Voilà. En fait, tant qu'on n'aura pas réussi pour assez de monde à mettre en face des problèmes, nos propositions de solutions, grâce à ces supports artistiques, grâce à ces rencontres, grâce à notre présence sur le terrain un peu partout, on n'avancera pas suffisamment. Donc oui, pour moi, la solution, c'est ça d'abord et avant tout. C'est multiplier la création de lieux, multiplier les rencontres et multiplier les supports pour transmettre à la fois ces idées, mais aussi cette réalité des terrains sur lesquels on est déjà en action pour montrer une société différente à des échelles diverses.
Et terminons avec l'anarchie. Alors maintenant, je pose souvent cette question parce que je suis toujours surpris par les réponses qu'on me donne. Mais les valeurs cardinales de l'anarchie pour toi, c'est quoi?
L'anarchie, pour moi, avant tout, c'est la liberté de prendre sa vie en main et trouver l'équilibre entre le je et le nous. Donc, si je devais choisir des formes poétiques, ça serait ça, quoi. L'équilibre entre le je et le nous, parce que dans les systèmes totalitaires, on a vu ce que ça a donné, mais aussi l'égoïsme et l'égotisme du néolibéralisme nous conduit à l'excès inverse. Donc, durant le XXe siècle, des deux côtés, ça a été la catastrophe, hein. On a pu vérifier que ça nous menait dans le mur de différentes manières. On dit souvent que le nazisme et le stalinisme, ça a provoqué énormément de morts. Mais en fait, on oublie de dire que le capitalisme au XXe siècle, ça a aussi provoqué énormément de dégâts et de morts. Et ça ouvre des perspectives aujourd'hui qui sont très sombres. Donc, puisque ces systèmes économiques et politiques ont déjà été testés au XXe siècle, la proposition, c'est de passer à autre chose au XXIe, tant qu'il est encore temps, et donc de prendre nos vies en main. Moi, je pense que le mot-clé, la phrase clé de l'anarchisme, c'est prendre nos vies en main. Voilà, c'est
Prendre nos
ça.
vies en main.
Nos vies en main, chacun et ensemble, en trouvant l'équilibre entre le chacun et le ensemble, entre le je et le nous, sans tomber dans le piège de vouloir absolument tout construire collectivement, ni chacun dans son coin. Voilà.
Et comment fait-on pour échapper aux stéréotypes que nos, on va dire, adversaires ont réussi à imposer dans l'inconscient populaire, anarchie égale chaos, alors que c'est tout l'inverse?
L'anarchie, c'est pas l'anomie, c'est pas l'absence de règles, c'est pas l'absence de rigueur. Au contraire, bien au contraire, c'est simplement l'absence de chef. Donc, à mon avis, le sujet, c'est plutôt de savoir si depuis l'origine de l'humanité, on a toujours eu besoin de chef, on a toujours eu besoin de sorcier, on a toujours eu besoin de hiérarchie. En quoi c'est vraiment nécessaire? En quoi ça fonctionne mieux? Voilà. Est-ce qu'on a des exemples qui montrent que ça peut fonctionner mieux sans chef? Et moi, je dirais la chose suivante. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, est-ce que avec nos amis, par exemple, quand on se balade avec nos amis, est-ce qu'il y a des chefs parmi nous? Est-ce qu'il y a l'État? Est-ce qu'il y a le capitalisme qui fonctionne parmi nous? Non, on fonctionne dans l'entraide naturellement. On se concerte, on fonctionne au consensus naturellement. On tient à être indépendant et autonome naturellement. Donc, en fait, cette tendance, elle est bien présente en nous et on la vérifie dans tous les recoins de la vie. Donc, par conséquent, ce qu'il faudrait, c'est l'étendre à plus grande échelle et on est capable de le faire à l'échelle de communes, ainsi de suite. Et après, peut-être de se fédérer d'une façon ou d'une autre, de façon à respecter l'autonomie des communes, des territoires et leur façon spécifique d'avancer. Tout en ayant à grande échelle un esprit de solidarité, d'entraide, de concertation, d'échange d'expériences pour avancer vers l'utopie. L'anarchie, c'est peut-être une utopie aujourd'hui, mais moi je pense que c'est la réalité de demain. Par contre, la question c'est de savoir quand. Mais même si ça sera difficile, de toute façon, ça vaut le coup d'être dans ce monde-là, sur ce terrain-là, parce que c'est un terrain vraiment plein de surprises, plein de joie, plein de rencontres formidables et plein d'humour aussi, parce que là où nous sommes actuellement, au CCL de Saint-Imier, on a une exposition de la gueule ouverte avec beaucoup d'humour des années 70, dans laquelle étaient clairement annoncés les différents problèmes de notre société actuelle, avec beaucoup de avec des dessins et des slogans visionnaires, voilà. Et
Génial.
donc le mouvement anarchiste, c'est aussi ça, beaucoup d'humour, beaucoup de provocations, et ça fait du bien également.
Ben c'est parfait, je crois qu'on peut terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a une question auquel tu aurais voulu répondre que je t'ai pas posée? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu veux lancer un
Non, non,
appel?
tout va bien, tout va bien, on avance. Je vous conseille juste de venir nous voir si vous
Absolument.
voulez, quand on se baladera. Vous pouvez nous trouver via les titres de nos films ou en tapant Anepos, Anepos, sur Internet.
Parfait, donc on sera présent
Ce soir à la
à
salle
20h,
Saint-Georges à
15h, à
20h à
20h.
Saint-Imier. Salle
Parfait.
Saint-Georges à 20h.
Nickel. Merci Yanis.
Au revoir.
Merci pour tous tes mots et à tout bientôt.
Merci.
Bye bye.